bienvenue sur cette émission de la radio de la BDBDEC, donc maintenant Coup Critiques, diffusée sur la 94.9 grâce à Graphite, l'émission qui parle de vos livres, BD et manga préférés, toutes les deux semaines. Je suis Melouane, votre autre aujourd'hui, accompagné de Aïva.
Salut, on a des petits problèmes avec les micros, mais ça va, maintenant c'est réglé.
Et voilà. Et de Mathieu.
Salut.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux de la BDBDEC et bien évidemment à la bibliothèque universitaire de l'UTC. Aujourd'hui, alors Mathieu nous a rejoint en l'occasion d'une exposition aussi faite par la BDBDEC. Mais avant toute chose, on va juste parler de nos lectures récentes, comme toujours. Donc, étant donné que tu es notre invité, Mathieu, je te laisse commencer les lectures récentes. Qu'est-ce que tu as lu ?
Alors, dernièrement, j'ai lu un petit livre très très ancien. Il s'agit tout simplement de la Divine Comédie écrite par Dante en 1321. Donc assez vieux effectivement. Alors, il faut savoir qu'à base c'est un livre en trois parties. C'est un livre en trois parties. L'enfer, le purgatoire et le paradis. Et alors ici on se focalise uniquement sur la partie de l'enfer, le plus connu parce que pour des images très intéressantes, de torture notamment. Mais
okay.
Venons-en au résumé de ce livre. Donc, allons voir ça. Donc, à l'âge de 35 ans, Dante se perd dans une forêt sombre. Il voit une colline lumineuse et essaie de la gravir. Mais il est repoussé par une échine, un lion et un loup. Virgile lui apparaît et lui propose de le guider vers le salut par un voyage dans les royaumes du monde souterrain, dans la forêt sombre. Ainsi commence le voyage de Dante, qui le mènera en enfer, au purgatoire, puis au paradis, où il pourra retrouver sa bien-aimée Béatrice. Alors, il faut savoir que ce livre est très particulier, puisque à l'époque, donc en 1321, c'était l'une des premières représentations précises de ce qu'était l'enfer biblique.
Oui.
C'est-à-dire que Dante a littéralement, enfin, il l'a pas dessiné, mais il l'a décrit comme une réelle cartographie, un voyage au sein de l'enfer. C'est ce qui se passe dans ce livre. Il commence son voyage au paradis en passant par tous les niveaux de l'enfer. Donc il le décrit en 9 cercles ici. Okay. Et à chaque fois, il nous raconte ce qu'il voit dans ces niveaux de l'enfer, dans ces cercles de l'enfer. Et à chaque fois, bon, c'est extrêmement réjouissant. Bon, c'est l'enfer, forcément. Donc je me permets de citer l'une des visions les plus joyeuses que Dante a pu rencontrer. Il s'agit notamment de quelque chose qui est arrivé au sixième cercle. Donc c'est le cercle où sont punis les hérétiques. Et les hérétiques, qu'est-ce qu'on leur fait ? Eh bien, ils sont condamnés à être enfermés dans des tombes enflammées, donc dans lesquelles les flammes vont brûler éternellement. C'est littéralement un four, mais pour les hommes.
Mais c'est super, ça.
Mais c'est très ambitieux comme pour représenter l'enfer. Hein.
C'est l'enfer, hein. C'est pas censé être joyeux de base.
C'est censé être la grosse joie, mais bon, voilà, c'est... On est là pour souffrir, on le comprend bien, et puis c'est au travers de toutes les pages, on souffre, nous, en tant que lecteurs, moins que les personnes, je l'espère. Mais ça reste, oui, c'est une lecture qui est très intéressante, c'est particulier, mais c'est tellement bien décrit, c'est vraiment présenté comme un voyage, comme littéralement quelqu'un qui parle de son voyage en Australie, sauf que c'est l'enfer, finalement.
C'est les mêmes
stratégies, c'est les mêmes détails, on est spectateur à travers Dante, on observe ce qui se passe, ce qu'on voit, on n'apprécie pas ce qu'on voit, mais on le voit quand même, puis on découvre, tout simplement.
Ça fait plaisir, en tout cas. Ouais, c'est une touche de bonne humeur pour commencer cette émission, et moi j'apprécie beaucoup.
On peut totalement lire ça en étant de bonne humeur, c'est pas un problème.
ouais, carrément.
Est-ce que c'est très détaillé justement sur les châtiments ou...
Ah oui, ils mettent bien l'accent dessus. Là, ce que j'ai parlé avec les tombes, c'est une trentaine de pages sur des gens qui sont brûlés dans des tombes, et on montre à quel point leur calvaire est incessant. Parce que là, c'est éternel, c'est le principe.
Et est-ce que ça a été écrit pour donner aux gens la peur de l'enfer justement, ou est-ce que... Dans quel but ça a été écrit en fait ?
Ah, c'est libre le contexte. Alors, je n'ai pas.
Si tu le sais, si tu le sais pas, c'est pas très grave.
Alors, c'était en 1321, donc forte présence de l'Église. Donc, j'imagine que c'était pour montrer les péchés qu'attendent les pécheurs, les sanctions qu'attendent les pécheurs. Mm-hmm. Et voilà, le fait de comment faire pour comment mériter le paradis, ne pas tomber en enfer, c'était vraiment à mener une vie telle que décrite par la Bible, etc.
Enfin, d'accord. Okay. Et pourquoi toi tu lis ça ?
Ah, j'avais
ça t'intéresse.
De réputation, j'avais entendu parler de cette œuvre.
Ouais.
Puis aussi parce que j'avais vu une image. Alors c'était, ça faut en parler. C'est Dante a marqué beaucoup de gens avec son œuvre, notamment des artistes de la Renaissance, dont Botticelli, qui a dessiné tout simplement la carte des enfers de Dante pour illustrer son livre à un moment. Et ça s'appelle tout simplement, je crois que c'est littéralement la carte de l'enfer.
Il a fait un fan art, quoi.
le fan art original, il appelle ça le jugement dernier. C'est, ça c'était pour, ah oui, non, je me confonds, c'est Michel-Ange aussi qui a fait ça.
Okay,
donc il y a Botticelli qui a dessiné la carte, et il y a Michel-Ange qui a tellement apprécié ce qu'a fait Dante qu'il a incorporé Dante dans sa fresque de la chapelle Sixtine, le jugement dernier. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine renommée, le personnage,
oui,
quand même.
Oui, je vois.
Pour la pierre, enfin pour il a apporté sa pierre à l'édifice de la mythologie biblique.
D'accord, ok, je vois.
Si je peux me permettre, un autre point qui est très intéressant, c'est que ça... Alors, ça n'a pas été confirmé par les auteurs, mais c'est très fortement suggéré que la manière dont Dante décrit son enfer en 9 niveaux, ça a inspiré des œuvres, notamment One Piece, pour l'édifice de Impel Down.
Oui,
qui est sur, je crois que c'est 6 niveaux Impel Down du haut vers le bas. Alors, Dante va l'enfer comme un entonnoir, finalement. Donc, la partie ouverte sur le dessus, la partie fine en dessous. Impel Down, c'est littéralement ça, mais à l'envers.
Oui, je vois.
Et chaque niveau de Impel Down est assimilé à une torture qui, pour la certaine, correspond à celle de Dante.
Okay.
Notamment, si on prend le troisième sous-cercle du septième cercle, il y a des sous-niveaux en plus, de Dante, qu'on le compare avec le troisième niveau d'Impel Down, on a la même chose, c'est un désert aride. Dans une pièce, c'est juste les prisonniers sont dans un désert aride et il n'y a pas d'eau, ils vont juste, pour la plupart, mourir, j'imagine.
Ah, c'est
toujours de la joie. Et dans la vision de Dante, de son niveau de l'enfer, c'est pareil, un désert aride avec une pluie de feu incessante.
toujours plus.
Donc, voilà.
Il était très créatif. Est-ce que c'était
trop,
basé sur des textes bibliques qui déjà décrivaient certaines choses, ou c'est beaucoup d'imagination de sa part, ou de... plutôt...
Alors, je n'ai pas lu la Bible spécialement en détail, donc je ne sais pas. Des parties de l'enfer, j'imagine, on doit être décrites dans la Bible, mais il y a une partie d'imagination de Dante, de comment représenter les choses réellement.
Oui.
Et les 9 cercles, ça vient de lui, il me semble. Donc,
Ok.
Et
est-ce que ça aurait inspiré aussi d'autres œuvres, par exemple ? Une à la BDBD qui a été...
Monsieur à l'œil. Il se pourrait effectivement que c'est également inspiré Made in Abyss. Alors Made in Abyss, c'est... L'histoire se passe... Enfin, toute l'histoire est centrée sur un abyss. Ça, parfait, on pouvait pas s'y attendre. Et là, pareil, c'est encore plus flagrant, puisque l'abyss est en forme d'entonnoir parfait, pas inversé comme Impel Down. C'est vraiment un entonnoir parfait comme Dante décrit l'enfer.
Oui.
Et pareil, l'abysse, c'est plusieurs niveaux que les protagonistes vont devoir descendre. À chaque niveau, il y a des dangers différents, des sources de souffrances différentes qui peuvent s'apparenter. Enfin, c'est pas les mêmes que celles que prend Dante, mais l'histoire d'un entonnoir avec des différents niveaux, différents dangers, différentes sources de douleurs qui peuvent apparaître, fait vraiment penser à ce que Dante avait imaginé en 1321.
Ok, merci beaucoup du coup pour la recommandation.
C'est un très bon livre. Hein.
Je le lirai peut-être dans un parc. C'est avec...
Parc.
Avec les oiseaux qui chantent.
Au cadre.
Exactement. Donc, Aïva, à ton tour, qu'est-ce que tu as lu récemment?
Alors moi, je vais vous parler de Mother Sarah, que je suis en train de lire en ce moment. Il manque quelques tomes, mais... ça me semble quand même important d'en parler, même si j'ai pas tout lu. C'est un manga qui est scénarisé par Katsuhiro Otomo, qui se trouve aussi être l'auteur de Akira, je savais pas du tout, mais je l'ai découvert là, et dessiné par Takumi Nagayasu, et qui est publié au Japon en 1990. Du coup, c'est un manga qui a plus de 30 ans. Ça pose un petit peu le contexte, un léger résumé, ça se passe dans le futur, il y a eu des guerres nucléaires sur Terre, la Terre n'est plus du tout viable, et les humains qui restent, qui sont toujours en vie malgré tout, fuient dans l'espace, dans des genres de stations spatiales, pour vivre un peu sous forme de colonies dans ces stations spatiales. Un équilibre est trouvé, mais au bout de plusieurs années, il y a des dissensions entre différents groupes politiques, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle le groupe Époque, qui ont envie de balancer une autre bombe sur la Terre.
Ouais. Toujours plus.
Toujours plus, toujours plus. De balancer une autre bombe pour la Terre dans l'objectif de la désaxer un peu pour que, j'ai pas tout compris, c'est pas très clair, mais en gros, la moitié de la Terre soit habitable et l'autre moitié de la Terre soit recouverte de glace, parce qu'actuellement, 0% de la Terre est habitable et le but de cette opération, c'est de rendre 50% de la Terre habitable, l'hémisphère sud. Et il y a un autre groupe qui est complètement contre, c'est les groupes des protecteurs de la Terre-mère, qui s'appellent comme ça, je crois, et qui estiment que les hommes ont leur chance, ils en ont assez fait, ça suffit, on va pas encore plus dénaturer la Terre que ça. Des guerres civiles, c'est compliqué. Au final, la bombe est quand même envoyée. Tout ça, c'est vraiment dans les premières pages. Hein. Je spoil absolument rien. L'histoire ne raconte pas ça, en fait. Elle raconte ce qui se passe après.
Okay.
La bombe est quand même envoyée. Du coup, maintenant, le nouvel intérêt à prendre, c'est qui va prendre le contrôle de la Terre. vu que la Terre est habitable. Et dans la précipitation, c'est un climat très difficile, Sarah se retrouve séparée de ses trois enfants et de son mari aussi. Et 10 ans plus tard, enfin, j'allais dire 10 ans plus tard, elle essaie de les chercher. Non, elle prend pas 10 ans à se mettre à les chercher. Ça fait 10 ans qu'elle les cherche en réalité. Et l'histoire se passe du coup au bout de 10 ans de recherche où elle a toujours trouvé personne parce que même la moitié de la Terre, c'est très grand, qu'elle a pas pu les suivre, qu'ils sont partis largement avant elle, etc. Et qu'il lui est arrivé plein de péripéties sur le chemin. Donc voilà, du coup, l'histoire, elle reprend à partir de là où Sarah essaie de trouver ses gosses. Qui ont du coup tous pris 10 ans dans la gueule, hein, forcément. Ces enfants qui avaient genre entre 10 et 4 ans, peut-être.
Ah oui,
ah oui, ok.
Du coup, c'est assez délicat. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé pour plusieurs raisons. Déjà, l'univers, je le trouve, je trouve plutôt bien foutu, c'est cohérent, les dessins, ils sont vraiment très beaux. Et j'aime bien aussi le style manga des années 90. Les mangas sont plus dessinés comme ça aujourd'hui, oui. En fait, et du coup, moi j'aime bien retrouver ça, je trouve ça agréable à regarder.
Oui.
Et évidemment, ce que j'aime le plus, c'est le personnage principal qui est Sarah, parce qu'elle est archi stylée, elle est badass de ouf, et en fait, elle défie vachement les codes du protagoniste féminin classique, parce que déjà, c'est une mère de plusieurs enfants qui a bien la quarantaine, et c'est pas du tout commun pour un personnage féminin. Encore moins un protagoniste.
Généralement, c'est pas commun.
Ouais. C'est vraiment pas commun. Et moi, j'ai bien kiffé, justement. Voilà, on connaît pas son âge, mais on peut supposer qu'elle a genre 40 ans. Elle a une force physique vraiment incroyable. Et en général, quand des personnages féminins, je trouve, hein, à mon sens... Enfin, en général, la grande force physique, c'est plutôt des caractéristiques de personnages masculins.
Oui.
Ou quand des personnages féminins ont un pouvoir, c'est rarement la force physique, c'est souvent autre chose.
Oui, genre, c'est clair.
Un peu plus subtil, un peu de manipulation, peut-être. Mais
oui, et puis généralement, j'ai l'impression que c'est un peu le trait de caractère un peu facile pour essayer de représenter une femme forte et lui mettre des gros muscles comme ça.
C'est vrai. Peut-être que c'est un peu facile, mais du coup, d'un autre côté...
Mais après, je connais pas le personnage.
Non, mais après... je sais pas, ça dépend, parce que moi, j'ai pas l'habitude. Je sais pas, quand j'imagine des films et tout, des comics, ce que tu veux, les personnages féminins, j'ai pas l'impression que ce soit souvent une grande force physique qui les caractérise.
C'est pas la majorité, oui.
Non. C'est vraiment non, pas
c'est
la majorité.
C'est pas la majorité, mais je pense.
Après, le personnage auquel je pense, je pense pas à grand chose, mais si, souvent c'est plutôt pour moi des histoires de manipulation de l'esprit, ce genre de choses,
oui.
Ou de l'intelligence. Ou,
oui, c'est clair.
Un peu, pour passer au passage final dans Game of Thrones, en général, c'est plutôt
oui, voilà.
Tromper les gens, poison, tout ça.
Mmh. Oui, c'est vrai.
Bien qu'il y ait Brienne de Torse dans Game of Thrones, qui soit extrêmement stylé, j'adore ce personnage. N'oublions pas Brienne de Torse. Je continue mon résumé sur Mother Sarah, mon avis sur Mother Sarah. Mmh. En plus de ça, du coup, je disais qu'elle rentre pas du tout dans des canons de beauté classiques. Elle est très, très grande, elle est très musclée. Elle a un certain âge quand même, bon, elle n'a pas 70 ans, mais elle a un certain âge quand même, il lui manque un sein, ce genre de choses. Elle défie tous ces codes-là, et moi je trouve ça bien que ce soit un personnage principal, et je la trouve vraiment très cool, et moi j'aime beaucoup.
Non mais bien évidemment, mais quand je dis c'est quelque chose de très facile pour mettre un personnage féminin fort, c'est, je parle... notamment dans certains Marvel ou des choses comme ça, où c'est juste le seul trait qui permet de définir ça comme un personnage fort, et derrière, il n'y a pas trop de réflexion. Mais là, de ce que tu me dis, c'est juste une partie d'un énorme truc. Donc,
Oui, non mais totalement. Et puis, c'est ça. Et puis l'histoire, elle se concentre vraiment sur elle. Et puis au travers des différentes étapes de son périple, l'auteur, il en profite pour faire des petites critiques sociales, des critiques de la religion.
Pourquoi que le catholicisme, c'est aujourd'hui.
Non mais... Dis donc, c'est le thème de l'émission, quoi. En fait, il fait des critiques de l'armée, pointe du doigt des contradictions, tout ça. Et moi, je trouve ça sympa. Du coup, je n'ai pas encore tout lu, mais je pense que je peux quand même affirmer que cette œuvre, elle se place pour les droits des femmes. Mais bon, ça, c'est évident. Mais plus que ça, parce que pour moi, il s'agit dans Mother Sarah de briser des codes et de donner du pouvoir aux femmes, en fait, et dans tous les sens du terme, que ce soit du pouvoir, je vous ai dit, elle a une force gigantesque, quoi, donc du pouvoir dans ce sens-là, du pouvoir dans les décisions, du pouvoir dans un peu tout, en fait, je trouve ça vraiment bien, et voilà.
Okay.
C'était, je sais pas si quelqu'un a lu ou a envie de lire, et on l'a, la BD Bédèque aussi, il est très peu emprunté, donc je vous en supplie, allez le lire.
Lisez-le.
Non
mais c'est étonnant d'avoir justement un manga vieux qui met en avant des personnages féminins, parce qu'aujourd'hui, on est un peu plus moderne, enfin moderne, enfin oui, plus avancé. Oui, oui. On a, c'est toujours compliqué de trouver des passages féminins en passage principal c'est avec clair. De tels traits, enfin des traits qui sortent un peu des stéréotypes. Alors oui, avant 190, c'est.
Ben oui, c'est,
ouais,
ça,
c'est ça,
c'est étonnant.
Ça m'a surpris aussi. Parce ouais, que... ouais. Non, parce qu'on pourrait se dire qu'aujourd'hui, avec toutes les causes autour du féminisme, etc., qui sont très connues, en fait, ce serait plus. Enfin, ce serait vachement cohérent qu'aujourd'hui il y ait des personnages féminins. Ça l'est cohérent dans tous les cas, forcément, mais qu'aujourd'hui ça serait plus lié à notre époque. Mais en fait, on voit que dans les années 90, c'était déjà le cas. En plus, les auteurs, c'est des hommes, pour le coup. Moi, je m'étais dit, mais attendez, pas un truc comme ça, c'est peut-être une femme qui a écrit. Ah non, non, c'est des hommes. Je me dis, ok, bah. D'accord, messieurs, allez-y, hein. Je sais pas.
Oui, non, bah, c'est clair que déjà en ce moment, j'ai comment dire, très peu d'animés en tête, ou de manga, ou de BD. Même si les BD, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus divers. Il y a beaucoup plus de diversité.
BD, oui, je trouve aussi.
Ouais, mais après, je suis vraiment pas connaisseur. Donc,
Après, d'un autre côté, c'est pas tout à fait vrai ce qu'on dit, parce que je sais pas quand sont sortis Ghost in the Shell et Gun, par exemple.
Et Perfect Blue aussi.
Années 90.
Années 90 aussi, du coup, au final, est-ce que c'est si choquant que ça que dans les années 90, on était
genre. Est-ce qu'il y a eu une régression, du coup?
Je sais pas s'il y a eu une régression. Peut-être qu'on connaît pas les bonnes œuvres aussi. Et moi, je connais des mangas c'est où vrai. C'est un personnage féminin, un personnage principal. Voilà, mais maintenant, c'est.
C'est clair qu'en y réfléchissant, Perfect Blue, Ghost in the Shell,
voilà.
C'était vraiment
très bon manga.
Gun, c'est vraiment bien, très bien. Lire, on en reparlera certainement.
On en parle dans l'expo.
Dans l'expo, ouais, c'est ça. Expo qu'on présentera plus tard. Du coup, on va pas trop teaser l'expo maintenant.
Et donc, merci beaucoup pour cette recommandation. Donc, dispo à la BDBDEC, je pense que je vais aller la voir. Hein. Honnêtement, ça a l'air très sympa. C'est combien de tomes?
11 ou 12,
ouais. Un peu comme Akira, les tomes grands, BD.
Plus fin que ça, beaucoup plus fin.
Ok, d'accord.
C'est des grands formats, ce qu'on a, c'est des grands formats, couverture rigide et tout. Mm. Mais il y a beaucoup moins de pages que dans Akira, peut-être 3 fois moins de pages.
Ok, d'accord. Bon, bah, j'irai sûrement lire, ça vaut le détour.
C'est intéressant.
Et donc, pour terminer cette séquence, je vais vous parler de ma propre lecture récente. Donc moi, c'est un peu un manga qui sort du lot, parce que c'est un manga d'horreur. C'est quelque chose qui n'est pas super répandu en termes... Quand je dis manga d'horreur, c'est-à-dire que c'est toute la trame du manga. C'est pas quelque chose à côté, un peu comme... Enfin, je dirais un peu Made in Abyss, où des fois, t'as vraiment des choses un peu gore, ou des choses comme ça. Je n'ai pas vraiment de nom en tête, mais comment dire... C'est toute la trame du manga, et d'être un manga d'horreur avec des dessins très psychédéliques, des dessins très particuliers. Donc c'est un manga publié par Junji Ito, un mangaka très connu justement pour l'horreur, fait dans les années 98, 99, 2000, en fonction de où on habite. Et donc vraiment tout le cœur du manga, c'est Uzumaki, c'est donc Spirale en français. C'est justement le fait qu'une ville entière est complètement pervertie par une spirale, par le concept de spirale. C'est-à-dire que des choses qui nous entourent, comme des escargots, des champignons ou des cyclones, par exemple, des petits tourbillons dans l'eau, des choses comme ça, n'importe quoi, même dans les cheveux aussi, des fois des gens ont des petits tourbillons. Chaque spirale dans cette ville pervertit ses habitants et ça mène à des situations d'horreur très très hard. J'aurais dû ramener, parce que j'ai l'édition, j'ai une édition complète et on peut voir absolument tous les dessins, mais c'est très très bien dessiné. Il y a des moments qui sont vraiment très badants, c'est-à-dire que tu peux pas te dire que juste avoir une spirale, ça pourrait aller aussi loin. Mais c'est-à-dire qu'on en est à un point où à chaque fois que tu vois une spirale, tu te dis qui va mourir et comment ça va quelle horreur va-t-elle se déchaîner, quoi. Donc c'est vraiment, ça peut paraître innocent, mais en réalité, ça peut révéler les pires côtés de certaines personnes. Des côtés pervertis ou même pervertir les gens, c'est-à-dire que des gens complètement normaux peuvent devenir complètement obsédés par la spirale et faire des choses très bizarres. Et donc ce serait comme ce serait donc dans des motifs de peau, des cyclones entiers, n'importe où. Et ce qui est aussi très drôle, c'est que c'est très sur les dessins, c'est très sur la mise en scène de chaque truc d'horreur, sauf que c'est un peu dispatché, c'est-à-dire que t'as une histoire de 20 pages, puis ensuite ça passe sur une autre histoire de 20 pages, les personnages restent les mêmes. Généralement, c'est... je me souviens plus... Kyrie, voilà. Le nom du personnage principal, Kyrie. Et donc c'est Kyrie qui habite dans cette ville, et où les spirales se développent et pervertissent les gens, et c'est ça... Comment dire, qui est là depuis on a l'impression depuis l'éternité. Et à chaque fois, on change de contexte, on change d'époque. Donc ça peut être le printemps, une histoire, et l'histoire d'après en automne. Ça peut se passer. Des fois, elles sont liées entre elles. C'est-à-dire que par exemple, dans une histoire, Kyrie perd sa maison, donc elle va aller dans un taudis. Qui est appelée la maison du démon, et donc il y aura des démons, mais c'est juste une histoire parmi une bonne dizaine qui sont pas forcément liées, et en plus de ça, des fois tu te dis, en fait, bah, je me serais barré depuis longtemps, quoi. C'est-à-dire que c'est... Elle reste, hein, elle reste, même son petit copain, comment dire, qui a un personnage... Alors, il est pas fait pour être comique, mais je trouve très drôle le fait que ce soit le seul mec qui se dise, les gars, il y a un problème, ça fait trop longtemps, là, faut qu'on se barre.
C'est classique des films d'horreur, ça. Situation dangereuse, séparons-nous.
Ouais, parce que personne ne l'écoute, en plus.
Oui, non, c'est ça. Forcément. Oui, voilà, c'est ça, c'est le mec que tout le monde trouve schizo, MDR... des spirales, du coup il est enfermé chez lui, il bannit toutes les spirales, il est complètement fou.
C'est trop cool les spirales, je sais pas pourquoi il veut bannir ça.
C'est une grosse passion des spirales.
J'adore les spirales.
Enfin voilà, donc c'est quand tu réfléchis un peu trop à l'histoire, tu verras qu'il y a beaucoup de problèmes, mais c'est vraiment pas l'une des c'est pas un des pourquoi tu regardes justement, tu lis la spirale justement. Donc, c'est très dommage que j'ai pas le livre avec vous pour vous montrer.
J'ai déjà vu des images passer parce que ça a été quand même quelque chose de très impressionnant.
Ouais,
et j'ai déjà vu des panels et tout qui ont l'air très très bien. C'est dans ma liste de choses à lire.
Ouais, c'est clair. Soon to be à la BDBDEC d'ailleurs, très récemment. Mais c'est vraiment l'utilisation de l'horreur qui fait partie inhérente du style graphique. C'est-à-dire que c'est pas l'horreur qui apparaît à certains endroits et d'un coup tout change, non, c'est omniprésent, il n'y a pas justement de couleur, c'est tout est en noir et blanc, du coup il utilise aussi ça pour mettre des spirales un peu partout, enfin c'est quelque chose de très intéressant.
Mais alors, de plusieurs choses, déjà je savais pas que c'était dans les années 90 que ça avait été fait, je savais pas du tout, je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça.
Ah non.
Et ouais, je savais vraiment pas pour le coup. Et aussi c'est vrai que j'ai lu quelques mangas de Junji Ito du coup, et c'est vrai que moi ce que j'aime bien, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait souvent il prend un concept et il le pousse à fond, il fait des trucs. Par exemple, moi j'ai lu Tomier et j'ai lu les chefs d'œuvre aussi, et dans Tomier, alors c'est le pitch bas, c'est juste la meuf elle peut pas mourir en fait, genre juste elle ne peut pas mourir. Elle reviendra toujours d'une manière ou d'une autre. Et il trouve des trucs de fou par rapport à ça. Enfin,
oui.
Même il arrive à rendre dérangeant des choses qui ne le sont pas forcément. Ouais, genre les spirales, les cheveux, comme tu as dit. J'ai vu des trucs bizarres avec des cheveux.
Oui, non. Ça peut être juste une cicatrice, les cheveux.
Ouais,
et ça peut être même d'accord. Des trucs un peu... J'ai lu justement, la dernière histoire que j'ai lue, c'était à propos de femmes enceintes qui se regroupaient et il y avait des problèmes avec des moustiques. Et qui faisait des tourbillons, et la fin est hard. Franchement, je pourrais pas le dire à la radio.
Non, de toute façon, ça spoil, donc on va pas le faire. Mais ouais, enfin voilà. Du coup, Mathieu, je sais pas si t'es familier, toi, avec Junji Ito.
Je connais de nom, mais je me suis jamais encore intéressé. C'est quelque chose que je veux lire. Enfin, je veux.
Il faut s'y intéresser, je pense.
Oui, j'entends des choses, je me dis. Après, voilà, c'est la curiosité qui va l'emporter, puis je veux dire. On est vraiment sur un Dante, mais avec des images. Un thème qui revient dans les dernières lectures qui est assez intéressant, c'est finalement le désespoir et la mort.
C'est clair.
C'est horrible.
C'est vraiment des dernières lectures très, très joyeuses. Hein.
Oui, c'est vrai. Et je veux dire, Sarah, elle perd pas espoir.
Non, Sarah, elle perd pas espoir. Mais entre l'enfer de Dante et des spirales qui pervertissent des gens, c'est...
Oui, c'est pas ouf. Enfin, c'est... Bon. Le mood du jour est pas
ouais, max, c'est clair. Ouais, c'est clair. Puis en plus, pour juste terminer sur Junji Ito, le fait aussi que, comment dire, j'avais lu dans un de ses chefs-d'œuvre, c'est un peu, c'est complètement ce qu'il fait généralement. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un disque comme ça, qui C'est l'histoire d'un disque, du coup, avec une chanson qui est très innocente, très belle d'ailleurs, apparemment, d'après les personnages principaux. Et derrière, le truc, c'est que tu vas être obsédé par la chanson, tu vas vouloir la garder pour toi tout seul. Et en fait, c'est une chanson maudite. Et bon, spoiler, il y a des personnages qui meurent. Et les personnages obsédés par cette chanson vont commencer par la chanter. Même s'ils ont le crâne fendu en deux, même s'ils ont été noyés, tu vas entendre la chanson sortir, tu vas les entendre murmurer la chanson de corps, quoi. Donc, c'est ce genre de choses qui est très badant et genre, ça peut paraître innocent, mais au final, c'est quelque chose qui fait très badé.
J'aime beaucoup l'idée de la chanson, et quand tu continues de chanter, et tu sais que, en l'entendant, tu te dis, ok, c'est mort pour moi.
Ouais, voilà, c'est ce genre de truc, ouais. Donc, je pense qu'on a terminé sur la section des lectures récentes, donc on va juste faire une petite pause. Et on va se retrouver après cette petite pause pour parler du thème.
La pluie qui tombe sur la ville respire la vie. L'oiseau qui dort sur son fil joue avec la nuit.
Bon retour parmi nous. On va donc entamer la section sur le thème. Donc, comme je disais, Mathieu vient pour cette émission afin de faire la promotion de l'exposition sur les antagonistes qui arrivent, fait par la BDBDEC aussi. Donc le thème de l'émission sera forcément les antagonistes, mais avant ça, on va parler aussi des protagonistes parce que c'est un peu inhérent au concept de protagoniste et d'antagoniste. Voilà.
Très bien, oui, parce que... Moi, je ne vais pas spoiler toute la définition d'antagoniste, vous le découvrirez lors de l'exposition, mais on ne peut pas définir spécialement un antagoniste sans se référer à son protagoniste. Mmh. Alors le protagoniste, tout simplement, qu'est-ce qu'il va être ? C'est différent d'un héros, d'un personnage principal, parce qu'il y a des nuances qui existent, mais le protagoniste, c'est celui qui va faire avancer l'histoire par ses actions et qui va, de ce fait, rencontrer le plus de conflits internes. C'est celui qui va le plus évoluer. Parce que plus il y a de conflits, plus c'est des manières de se surmonter, etc. Donc c'est surtout le personnage auquel le lecteur peut s'identifier et avec qui on progresse.
Oui, ouais. Puis il y a aussi le fait, j'ai vu ça quelque part, le fait que le but principal, justement, de l'antagoniste, c'est de pousser le protagoniste dans ses derniers retranchements, peu importe ses intentions, qu'elles soient pures ou mauvaises.
C'est ça, son utilité. Un bon antagoniste, c'est quelqu'un qui va vraiment réussir à faire grandir énormément, enfin, avoir un impact important sur le personnage, sur son évolution. Parce que ça voudra dire qu'il a été impactant et qu'il a été réussi dans son exécution, tout du moins.
Oui, d'accord, ok. Voilà. Donc, tu peux commencer par nous parler d'un antagoniste qui...
Un antagoniste de l'exposition, j'imagine.
Oui,
qui vais-je ramener? Eh bien, j'ai pensé ramener un antagoniste auquel on ne s'attend pas forcément, puisque justement, le but avant tout de l'exposition, c'est de montrer que, en général, souvent, on va dire, on a une image d'un antagoniste qui est vrai, mais pas loin d'être complète. Mmh. Un antagoniste, souvent, pense que c'est un personnage qui combat le héros. Alors, ça peut être très, très différent. Mmh. Par exemple, je vais prendre l'exemple des algues vertes, dans le roman graphique Les algues vertes, l'histoire interdite, dans lequel on peut considérer les algues vertes comme une forme d'antagonisme au personnage ici, qui va être les Bretons, et plus particulièrement des médecins bretons qui veulent faire reconnaître cette nouvelle menace. Alors, une algue, c'est dénué de conscience, ça n'a pas de volonté propre, ça ne va pas vouloir s'opposer au héros par volonté, enfin, protagoniste par volonté, mais dans son exécution, ça représente une forme d'antagonisme, puisque justement, ça va permettre, comme je dis, aux médecins bretons, de le faire entrer en conflit dans sa vie, ça va lui mettre des nouvelles tensions, des nouvelles sources de stress pour réussir à surmonter ce nouveau problème, cette même menace qui apparaît en Bretagne. Et à ce titre-là, puisque ça fait évoluer des personnages... Bon, dans ce roman graphique, il y a apparemment un protagoniste en particulier, mais on montre une évolution sur les personnages, que certains personnages que l'on suit, et dans ce cas-là, on peut considérer ces algues comme antagonistes, au même titre qu'un quelque chose beaucoup plus connu comme un Sauron ou un Freezer dans Dragon Ball, forcément. Et oui, c'est une nature très différente. Mais ça reste un antagoniste.
Oui, c'est clair. C'est, bah, ça fait penser un peu justement à la spirale dans, comment dire, dans les œuvres de Junji Ito, ou la musique, ou des choses comme ça, qui... Donc, ce sont juste des concepts, mais le protagoniste va se retrouver à devoir lutter contre une spirale, quelque chose qui, en soi, n'est pas forcément... Après, c'est un manga d'horreur, donc c'est un peu plus... un peu moins réfléchi en termes de conflit protagoniste-antagoniste, mais ça reste notable, quoi.
C'est ça. À partir du moment où les spirales vont avoir un impact important sur les personnages que l'on suit, sur leur développement, et elle s'oppose parce que ça cause la mort, donc l'opposition est plutôt, on va dire qu'elle est plutôt présente. Dans ce cas, oui, effectivement, c'est une forme d'antagonisme.
Eh ben moi, si je m'attendais à ce qu'on me dise que des algues vertes, c'était des antagonistes. Non, mais franchement, c'est étonnant. Étonnant, je dirais. Ouais, surtout que, enfin, non, mais voilà. En fait, quand on y pense, tout ce qui va être en fait, du coup, toutes les histoires qui vont être liées à des histoires de maladies, ce genre de choses. L'antagoniste, ça va toujours être la maladie, par exemple.
Exactement.
Ou alors, c'est ça, les catastrophes naturelles. L'antagoniste, ça va être la catastrophe naturelle.
Exactement. Ah, okay. Si, du moment où c'est bien amené, où on montre, comme toujours, l'impact sur le protagoniste, ouais, et qu'est-ce qu'il en ressort, c'est un antagoniste. Enfin, on va plutôt dire une forme d'antagonisme, parce que c'est pas personnifié, mais ça reprend l'opposition, donc c'est là, et ça rentre dans la définition.
Donc, ce qui ferait un bon antagoniste, c'est aussi un bon protagoniste. C'est-à-dire que si jamais le protagoniste n'est pas à la hauteur de l'antagoniste, on aurait donc un contraste, et ça abaisserait un peu la qualité de l'antagoniste.
Bien sûr. J'ai pas d'exemple, enfin, ça serait dommage de on va critiquer des œuvres non plus, mais oui, on pourrait, mais un protagoniste qui ne ressort aucune leçon de sa confrontation avec l'antagoniste, ça va juste effacer la présence de l'antagoniste, puisque ça juste, et ce sera, bon, dans le cas où c'est un personnage, il sera combattu contre quelqu'un, il l'aura battu, étape suivante. Enfin, il devient très oubliable. Oui. Il aura très bien amené l'antagoniste, si au final, il s'est balayé, on n'en parle pas, bon, finalement, qui s'en souviendrait? Donc,
oui, c'est clair.
Il n'impactera pas l'histoire, et ce serait dommage si de l'effort était mis dans sa conception, justement.
Oui, et puis deux duos aussi, antagoniste-protagoniste, je pense, que vous avez entendu parler, qui sont très connus et très, très appréciés. C'est le duo, du coup, Dr. Tenma, Yohan, dans Monster par Urasawa, et aussi Griffith et Guts de Berserk par Miura.
Alors, si je peux dire un truc sur Griffith et Guts, c'est amusant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu cette discussion avec Mathieu à propos de Griffith et Guts, comme par hasard, on en parlait. Et en fait, par rapport à Griffith, finalement, la réponse n'est pas aussi simple sur est-ce que c'est un antagoniste ou pas, parce que pour moi, c'était un antagoniste de ouf, Griffith. Et en fait, quand on y réfléchit, peut-être pas tant que ça.
Et oui, car Guts complique tout, finalement. Quand on pense antagoniste, faut qu'il, comme j'ai dit, il s'oppose au protagoniste, donc il s'oppose souvent à ses ambitions. Mmh. Et quand on en vient à penser aux ambitions de Guts, c'est, bon, finalement, à part vouloir protéger Casca et chercher une sorte de vengeance en général, il n'y a pas grand-chose de plus. C'est quelqu'un qui a toujours cherché des objectifs dans son enfance, qu'il n'a pas trouvé. Au final, il a réussi à en trouver en voulant suivre le rêve, oui, de Griffith. Mais au final, bon... On va pas se spoiler, mais une fois que quelque chose s'est passé...
quelque chose...
Il n'a plus vraiment d'objectif précis, finalement. Il vit un peu au jour le jour, et dans ce fait-là, s'il n'y a pas quelqu'un... Enfin, il n'y a pas vraiment un personnage qui peut s'opposer à ses ambitions. Dans ce cas-là, on ne peut pas le faire grandir spécialement en s'opposant à ce qu'il veut faire, à ce qu'il veut être, à ce à quoi il aspire. Donc c'est,
ouais,
c'est plus
d'autant
compliqué.
D'autant que Griffith, à partir d'un certain point, n'en a plus grand-chose à faire, en fait, de Guts.
Griffith, ghost, totalement ghost.
Bah oui, à un moment, il se retrouve face à face. Guts, il a genre, oh, mon ennemi juré. Et Griffith, il le regarde même pas, il le considère même pas. Oui, à partir d'un certain point de l'histoire, c'est vrai que on va dire que c'est pas une rivalité, mais je sais pas comment dire, l'opposition entre les deux est de plus en plus floue et
exactement.
Étrange.
Griffith devient un ennemi, enfin Guts le voit comme un ennemi alors que Griffith ne considère même pas Guts et il n'existe plus pour lui. Et de ce fait-là, un antagoniste qui ne considère même plus le protagoniste, qu'est-ce qui se passe?
Oui.
Surtout quand c'est des personnages, donc c'est vraiment le héros qui s'entête à vouloir à rencontrer ce personnage, mais au final, pour chercher une sorte de vengeance, mais cela, pareil, pour son développement interne, on sait que la vengeance, ça n'apporte jamais rien de spécial en général. C'est très flou, c'est très compliqué, la relation entre ces deux-là. Donc,
Ouais, mais après, c'est clair que c'est très complexe. Déjà, pendant le Golden Age, tu te poses plein de questions sur Griffith et qu'est-ce qu'il veut réellement et c'est quoi sa vraie nature. Et derrière, il y a aussi Goetz, mais c'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses entre les deux. Avant le fameux combat enneigé, je ne sais pas si vous voyez.
Oui,
la scène où ils se séparent.
La fameuse scène, je vois.
Ouais, et puis, justement, ce qui se passe à la fin du Golden Age, toute cette histoire et toute cette relation est très complexe. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le duo. C'est que, oui, effectivement, en termes d'idées, c'est pas super. Enfin, même si les deux s'opposent naturellement quand même. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est souvent représenté comme le faucon, l'autre le corbeau, justement, qui est plus.
Le loup peut-être, non ?
Le corbeau ?
Je crois que oui, le corbeau noir. Je crois que
c'est le guerrier noir.
Le guerrier noir.
Le guerrier noir, mais je crois qu'il y a quelque chose.
J'ai jamais entendu corbeau noir, mais peut-être. Hein, je peux me tromper, hein, mais juste pour faire un peu de contexte par rapport à Berserk, on a déjà un peu parlé, mais juste repousser un peu les bases. C'est un manga qui est écrit et dessiné par Kentaro Miura, qui est décédé il y a quelques années maintenant, mais qui continue parce que ses assistants ainsi que son meilleur ami, je crois, reprennent le manga, continuent de le dessiner et du coup de l'alimenter. Donc l'histoire continue. Et du coup, quand on dit le Golden Age, en fait, on fait référence à un arc en particulier du manga qui s'étend du tome 4 jusqu'au tome 13 à peu près, de mémoire, et qui raconte en fait la jeunesse, on va dire le début de la vie d'adulte, adolescent, adulte de Guts et de Griffith, du coup. Et c'est reconnu comme l'un des meilleurs arcs, si ce n'est le meilleur arc du manga. Et qui est vraiment très très bien pour le coup. Il y en a plein d'autres après qui sont très très bien aussi.
Oui.
Mais je ne me rappelle pas du nom de tous, du coup je ne vais pas les dire.
Oui, c'est clair. Après, c'est vrai que justement, Griffith et Guts, la rivalité entre les deux, c'est plus jusqu'à la fin du Golden Age. Ça revient un peu récemment, là, mais bon, après.
Mais après, récemment, il faut. On
a eu une planche avec un regard et ça s'en va.
Ouais, c'est clair. Enfin, bref, dans tous les cas, ouais, mais. Il y a aussi le fait qu'ils s'opposent naturellement dans le fait où il y a Goetz qui est très, très taquiturne de nature, qui reste toujours à l'écart et qui est souvent symbolisé par le noir, justement. Et t'as Griffith qui est très illuminé. Et puis aussi Goetz qui fait peur, qui est vêtu de noir, qui n'a pas forcément un regard très sympatoche, tu vois. Alors que...
Non, c'est sûr. Après, ils peuvent s'opposer sans pour autant être l'antagoniste et enfin, tu vois. Enfin, ils peuvent s'opposer dans genre leur je sais pas leur chara-design par exemple, oui, sans pour autant être des antagonistes.
Souvent, c'est quand les chara-design s'oppose, ça fait preuve d'un c'est pour montrer qu'il y a l'antagoniste et le protagoniste. Je pense à Barbe Noire et Luffy dans One Piece, où première attraction entre les deux. J'aime la tarte aux pommes. Il y en a un qui adore la tarte aux fraises, l'autre il déteste. L'un adore un breuvage, l'autre déteste. Et c'est comme ça qu'on comprend, ok, ces deux-là, ils sont totalement opposés. Ça montre le début de la relation. Mais dans le cas de Berserk, c'est
plus délicat parce qu'en plus, ils sont amis à la base. Hein. Ils sont vraiment amis. Hein.
Lors de Golden Age, il y avait une rivalité où. Ils cherchaient même pas le même objectif.
Ils se poussaient l'un l'autre, justement.
Oui, ils étaient amis finalement. Enfin, vu qu'ils ne partageaient pas le même objectif, la notion de rivalité n'est pas définie spécialement non plus.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc, c'était très compliqué ce
débarquage. C'est un peu délicat.
Oui, c'est clair. Je pense qu'il faudrait une émission entière pour pouvoir. Des recherches très approfondies sur ça. Parce que là, on n'a pas vraiment
plus que sur base de souvenirs il y a 2 ans quand j'ai bouffé tout le
Berserk. C'est clair. Oui. Mais sinon, du coup, l'autre, c'est Johan et Tenma. Franchement,
je connais pas par contre.
Alors, de Monster, de Urosa.
Ah, j'ai pas lu, c'est pour ça.
C'est très, franchement, c'est un antagoniste qui. Je pense, l'antagoniste qui m'a fait le plus peur. Mais.
Johan. Appelons-le Johan, allez.
Donc, ce qui est surprenant aussi avec cet antagoniste, c'est que si tu regardes vraiment, il paraît omniprésent pendant 99% du manga, mais en réalité il est là que très rarement à l'image.
On le voit pas tant que ça, c'est vrai, mais
Je crois qu'il y avait un mec qui avait fait le calcul et il s'était rendu compte que c'était genre 10% du manga.
Ça va être, on compte ce qu'il, on nous raconte ce qu'il fait, on a l'impression qu'il est tout le temps avec nous, puisque
oui.
Toutes ses actions, on voit comment il, son impact sur, bah, sur ce qui se passe dans la ville finalement.
Oui, c'est clair.
Mais les affiches, enfin les moments où on voit sa tête finalement, très très peu effectivement.
Et ouais, et c'est ça qui justement qui le rend encore plus terrifiant, c'est que on en entend parler à chaque fois, la première fois on le rencontre, on n'a pas forcément super peur, on essaie justement de l'apprendre et il est quand même très menaçant. Enfin la première, plutôt deuxième fois justement dans le parking là.
Il s'est passé quoi sur ce parking ? Non, mais c'est pas la dernière fois dans le parking.
J'ai pas trop envie de trop spoiler.
Non, s'il vous plaît, ne spoilez pas. Moi, j'ai envie de lire Monster un jour. Je pense que ceux qui n'ont, enfin, de ce que j'ai entendu de Monster, c'est quelque chose de très très bien.
Allez. Oui, c'est,
du coup,
c'est...
autant ne pas spoil pour ne pas gâcher le plaisir de lecture de potentielles personnes. Mais... D'autant que Monster, on l'a à la BDBDEC.
Bien sûr.
Et le lire si vous êtes de la région. Et de plus, et on a aussi Berserk à la BDBDEC. T'as
on
dit
a
quoi
Berserk.
Région PACA, oui, on est ici.
Région PACA.
De la région. La région du talent, bonjour.
Région du talent. C'est pas vraiment la région PACA ici, on est à Compiègne, dans les Hauts-de-France. Donc si vous êtes de Compiègne et ses alentours, vous pouvez venir lire à la BDBD.
Il n'y a pas de problème.
Dites, je viens de PACA, je veux lire Monster.
On a des poufs, hein, donc.
Ils sont propres, donc venez, vous inquiétez pas.
Ils ont toujours été propres, bien entendu. Qu'est-ce que vous racontez ?
Non, si jamais vous avez envie de venir, on est du coup au rez-de-chaussée de la bibliothèque universitaire de l'UTC. La lecture sur place est totalement gratuite. C'est ouvert aux gens qui ne sont pas de l'UTC aussi. Donc,
voilà, donc.
Vous êtes du coin, si ça vous tente. Là, c'était l'instant promo.
Voilà.
Pour reprendre.
Voilà, donc. On peut reprendre vite. Oui, en fait, du coup, ce que je disais sur Johan, c'est le fait que entre la première fois où on le rencontre en tant qu'antagoniste dans le parking, le fameux parking, justement, et la deuxième fois où on le rencontre, en fait, on a beaucoup de contexte qui nous est donné par rapport au personnage, beaucoup de choses où on se dit « Ah, il a fait ça, c'est pas ouf, et il fait peur, du coup. » Du coup, forcément, quand on le revoit, et en plus, la mise en scène est très bien faite. Donc, après, quand on le revoit une nouvelle fois, c'est encore plus terrifiant parce que tu es en face de la bête qui
du monstre littéralement.
Oui, c'est clair.
C'est un il tue pour le plaisir, il n'a aucun aspect humain en lui, c'est très bon de voir ça.
Mais c'est un personnage très complexe en général.
Plus complexe certes, mais okay. Il fait le mal, mais il le fait terriblement bien.
Oui, c'est ça. Et il le fait tellement bien qu'il
trop bien.
Il le fait tellement bien qu'il pousse un médecin, un chirurgien très renommé, donc le docteur Tenma, le protagoniste de cette histoire, à vouloir le tuer, alors que justement sa propre conviction justement en tant que médecin, c'est de sauver des vies. Et c'est quelque chose qui est justement très récurrent parce que du coup on le voit beaucoup être confronté de utiliser ses compétences de médecin et être reconnu par des personnes un peu random en lui disant vous êtes un homme incroyable et tout, je vous fais totalement confiance. Mais le problème c'est que à chaque fois il répond je suis pas si incroyable que ça parce que j'ai la conviction de tuer quelqu'un. Donc il pousse un homme qui est vu juste par tout le monde, mais Tenma lui reste justement reste fidèle à lui-même et dit je ne suis pas aussi juste et bon que vous pensez parce que j'ai la conviction de tuer un homme.
C'est ça.
Et surtout la confrontation, la dernière confrontation avec Johan, c'est mama incroyable.
Mama.
Arrêtez de teaser s'il vous plaît. C'est bon. J'ai pas le temps de lire en ce moment.
Terrible. Et c'est là aussi qu'on voit que Johan est un antagoniste brillant puisque il arrive à faire en sorte qu'un médecin décide qui est là pour protéger la vie, qui est la vie la chose la plus importante à ses yeux, à vouloir en arriver à en prendre une vie finalement.
Oui, c'est clair. Et surtout,
là, c'est gigantesque.
Et surtout, à regretter justement. Bon, est-ce que je le dis ou pas ?
Non, si tu hésites, tu ne le dis pas.
Ouais, non, je ne pense pas que je vais dire, mais c'est
garde de suspense.
Voilà, on remet en cause un personnage qui est bon de base, naturellement, quelqu'un qui n'a pas qui ne devrait pas avoir de conflit interne. Parce que il a pas d'autres motivations que de sauver les vies, quoi. Donc c'est quelque chose de très très bon et juste les confrontations avec Johan et toute l'histoire derrière, tout le background que je trouve très bien développé. Voilà, c'est un antagoniste parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que c'est avoir un antagoniste du début jusqu'à la fin qui est omniprésent, enfin un antagoniste représentatif de l'œuvre, c'est vraiment quelque chose de très utilisé récemment, surtout avec par exemple Jijika et avec Sukuna. Sukuna, c'est dès le début, on sait que il est pas super gentil, quoi. Surtout un peu comme Yohan, même si c'est pas du tout les mêmes personnages, mais c'est-à-dire qu'on a Itadori qui a des convictions très pures. Et pourtant, il arrive justement à le mettre dans ses derniers retranchements, surtout très récemment sur l'animé. Je ne sais pas si vous regardez.
Ouais.
Et c'est.
Les scans, mais.
Oui, dans les scans aussi. Il met absolument.
Manga plus.
Il met tous les protagonistes dans les retranchements. C'est ça qui est très, très intéressant. C'est qu'ils ont tous des intentions très pures de sauver les vies, repousser les fléaux, etc. Mais. Il est tellement imposant et tellement inarrêtable qu'il les pousse justement.
C'est un mur, littéralement. C'est...
Oui, voilà. D'ailleurs, j'avais vu une comparaison. C'est Sukuna qui serait justement une force inarrêtable et Itadori qui serait un objet immobile pour toujours. Genre, qu'est-ce qui cédera en premier?
C'est comme si on
imagine. Ah oui, je vois. Ouais,
je sais pas si j'ai bien dit.
Si, j'ai compris. Genre Sukuna qui est une force inarrêtable et face à lui, il y a Itadori qui est incassable en fait.
Ouais, voilà,
un mur. Qui est incassable. Et qu'est-ce qui va casser entre le mur incassable et la force inarrêtable?
Ouais, voilà.
On aurait un mur en plomb et un clou en plomb et le clou aurait pas tapé contre le mur.
Ça. Est-ce que le clou va péter ou est-ce que c'est le mur qui va péter?
Ouais, plutôt abandonner quoi et lâcher prise. C'est ça. Donc c'est ça qui. Surtout que Sukuna n'a pas forcément.
C'est pas faux.
À l'heure d'aujourd'hui, Sukuna n'a pas tellement de motivation, et ça c'est bien, mais les antagonistes peuvent aussi être des représentations du passé, une confrontation aux idéaux auxquels les protagonistes se sont attachés pendant peut-être toute la série, voire plus pendant toute leur vie, quoi. Donc je pense notamment à Samurai Champloo, la dernière confrontation notamment avec Mugen et aussi Jin, où justement... L'antagoniste, c'est pas forcément des gens. Certains personnages, on a été introduits deux épisodes avant, même pas. Donc, c'est pas forcément des gens qui sont mémorables, mais ce qui est plutôt mémorable, c'est plutôt leur représentation par rapport au personnage principal. Ils sont pas là justement pour l'histoire, comme Yohan. Ils sont pas là pour avoir un caractère super développé, avec une philosophie incroyable derrière, mais plus pour le personnage. D'être confronté à ses erreurs et son passé. Donc, je pourrais pas spoiler parce que c'est la fin et surtout, un bête de manga, bête d'animé, donc à regarder aussi. Hein. On a le manga à la BDBD, même si je vous le recommande pas. Je vous recommande de regarder l'animé parce que la musique fait quand même partie.
Oui. La musique est incroyable.
La musique, elle est folle.
L'ending de fin.
Ouais, c'est vrai, il y a plein de références, on va dire. Culturels, des anachronismes et tout qui sont faits. Enfin, quand c'est bien fait, j'aime bien. Et en plus, c'est un animé avant d'être un manga. Et l'animé est juste mieux que le manga, quoi.
Oui, c'est clair. On va juste faire une petite pause sur ce. Et puis, on vous dit dans une minute ou 45 secondes. Et puis, à tout de suite. Bon. bon retour parmi nous. Voilà, donc je suis toujours avec Mathieu et Eva et on est sur la dernière partie de l'émission, toujours sur le thème des antagonistes. Donc,
bah vas-y Mathieu, lance-toi, hein, c'est...
J'étais timide.
C'est à propos de ton expo après.
Exactement.
Tout.
Exactement. Donc on a vu plusieurs facettes de ce que peut être un antagoniste. Et une autre, pas une erreur, mais on mélange souvent le fait qu'un antagoniste est méchant. Souvent, on se dit, il est méchant, il s'oppose au héros, il est méchant. Alors, un antagoniste peut être tout à fait gentil, hein, par rapport à ce qu'on dit précédemment. Du moment où il s'oppose aux ambitions du personnage principal et l'aide à progresser, c'est un antagoniste. Et un personnage qui s'oppose, je prends l'exemple de personnage, c'est plus simple, qui s'oppose aux ambitions du protagoniste, c'est en général un rival. Et un rival n'est pas forcément méchant, loin de là.
Non.
On peut penser au tout début de Haikyuu avec Kageyama. Bon, Kageyama au début faisait un peu peur, mais finalement, est-il méchant? Il ne tue pas des gens.
Non, il fait juste du volley-ball.
C'est un mec un peu edgy, quoi. C'est
clair.
C'est ça. Donc, Kageyama est un antagoniste. Bon, il devient ami après les deux personnages, mais au début, la rivalité est très marquée. Hinata se dit, je veux dépasser ce passeur. C'est un objectif à atteindre. Et ça, c'était très fort. Un autre très bon exemple, c'est... œuvre de cœur, Jashugan dans Gun. Alors, là, quel homme ce Jashugan. C'est. Bon, Gun, c'est beaucoup de choses, mais pour faire vite, on va dire que, à un moment dans l'histoire, la protagoniste Gali se lance dans des compétitions de motorball. Donc, concrètement, c'est prendre un ballon, aller sur une piste, rouler à 300 km/h sur des pistes et amener le ballon à la ligne d'arrivée. Et tous les coups sont permis. Donc, généralement, c'est de la bagarre à 300 km/h. C'est très beau, très violent, très.
Voilà, c'est très stylé aussi, très stylé.
Et Gali va se retrouver à affronter le champion en titre du motorball, le plus grand motorballeur, si ça existe de tous les temps, Jashugan, qui est, comme vous pouvez le voir avec Sukuna, c'était un mur, cet homme. C'est à aucun moment, je vais pas spoiler, mais c'est le mur de motorball. Et Gali, qui est un personnage qui est très fier intérieurement, quand elle a commencé le motorball et qu'elle voit ce personnage qu'elle rencontre, Jashugan, elle voit comment il est. Directement après l'interaction, c'est « je veux dépasser ce mec ». C'est Gali, à l'intérieur, elle a une fierté qui est gigantesque, elle voit ça, elle se dit « il y a un mec qui apparaît comme plus fort que moi, je dois le dépasser, c'est un objectif à dépasser ». Donc l'antagoniste était déjà marqué, il va aider Gali à se surpasser, à comprendre des choses sur elle va comprendre énormément de choses sur elle au cours de leur affrontement, parce qu'elle va l'affronter dans un match de motorball, évidemment.
J'espère bien.
Là, ce sera l'occasion pour Gali de retrouver des souvenirs, comprendre mieux qui elle est réellement, parce que ça reste, on part sur un passage qui est amnésique au début, n'oublions pas. Et elle va apprendre tellement de choses au cours de ce combat. Ça a propulsé le personnage dans les prochains arcs du manga, mais c'était vraiment une confrontation magistrale. Et Jashugan, mais quel monstre, quel homme.
Quel homme, franchement.
Il est si beau aussi, mais...
Je n'osais pas le dire, mais c'est vrai. Il est dessiné. L'auteur, il a mis tout ce qu'il pouvait dedans. Je pense qu'il a mis de l'or dans sa plume quand il l'a dessiné. Les plans, ils sont magnifiques. Les cases, les jeux de regard, c'est trop beau. Le chara-design est dingue, genre...
Chaque plan où les deux personnages sont ensemble, c'est magnifique. Mais ils étaient faits pour s'affronter un jour sur la piste. Et encore une fois, Jashugan est très gentil. Hein,
il n'y a rien. C'est juste un sportif. Hein,
un bon sportif qui est là pour le fair play, pour le beau jeu. C'est vraiment tout l'inverse d'un méchant. Et c'est un des plus grands antagonistes de tous les temps que j'ai jamais vu. Hein, c'est la manière dont il est amené comme sportif final à battre, c'était gigantesque, littéralement.
Oui, ok. Oui, donc c'est vrai que les antagonistes peuvent être très méchants, mais ils peuvent être aussi juste, ils font du volleyball.
Juste des gens normaux, quoi, finalement.
Voilà, quoi. Oui, ça me rappelle d'ailleurs un autre, justement, une autre série très beau. Très, vraiment, je ne vous la recommande pas, mais Monogatari.
Ah.
Je ne vous la recommande pas. Monogatari, où justement, l'un des méchants, ou méchant, justement, principal, et justement quelqu'un de très réaliste, très dans notre monde actuel. Donc je vous fais un petit speech de Monogatari, c'est un peu notre monde actuel, mais sauf que des espèces de, je sais plus comment ils les appellent, absurdités, des phénomènes étranges arrivent dans la ville de Koyomi Araragi. Bref.
Je t'aiderai pas dessus. Hein.
ce sont liés justement à des espèces de. Un peu comme par exemple dans JJK ou Bunny Girl Senpai, des fléaux, quelque chose de paranormal qui est lié au problème des personnages principaux. Et en fait, on est introduit dans une des nombreuses parties de cette série à Kaiki Deishu, qui a un banger en termes de thème musical. Mais plutôt, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se passe beaucoup de choses pendant la série. Ils sont confrontés, ils se battent pas forcément, mais c'est beaucoup de confrontations psychologiques et idéologiques par rapport justement à ce que eux croient, ce que Kaiki croit, et avec aussi des révélations par rapport aux personnages principaux. Waouh, en fait, il était là depuis le début, c'est ce genre de choses. Et sauf que à la fin, les personnages principaux se retrouvent dans un magasin de donuts. Et ils trouvent Kaiki Deishu qui est là. Et donc, ils commencent... forcément, ils sont tous surpris. Parce qu'en plus de ça, il est techniquement... il ne devrait pas être là. Mais ils sont surpris. Et du coup, Kaiki, il dit... Est-ce que je suis une mauvaise personne qui fait parfois des choses normales ou est-ce que je suis une personne normale qui fait des choses mauvaises ou est-ce que je suis une mauvaise personne qui fait des choses normales? Donc c'est quelque chose...
C'est trop deep, oh là là.
C'est vrai que d'avoir cette représentation d'un antagoniste incroyable que tu vas pas forcément... Enfin, que tu croises dans un shop de donuts, c'est très drôle, surtout que...
J'adore.
C'est marrant.
Surtout que ça, c'est dans la... dans une partie, on voit justement le personnage à travers les yeux du personnage principal, mais ensuite on le retrouve dans d'autres parties où par exemple c'est lui le centre de l'attention, où il intervient en tant que oncle justement d'un des personnages principaux on le voit, mais plutôt en termes d'oncle un peu gâteur qui dit allez mange ta viande quoi, c'est sympa. Et puis c'est quelque chose de très drôle, parce que dans la plupart justement, par exemple avec Urasawa, où t'as t'as Ami dans 26th Century Boys qui est vraiment une menace internationale. Johan qui est juste très menaçant lui aussi. Et t'as aussi dans Pluto, quoi.
Donc, à la BD Bedeck, plutôt, n'oublions pas.
Oui, toutes les œuvres d'Urasawa sont à la BD Bedeck. Hein, donc n'hésitez pas, version complète. Donc allez-y. Et on les voit omniprésents, des méchants qui sont défaits à la fin, on n'en parle plus, et c'est quelque chose de très beau. Mais par contre, Monogatari qui ouvre une voie, c'est le mec, en fait, c'est juste un mec normal, quoi. Il a des enfants, il a des trucs, il veut juste vivre sa vie. Des fois, il fait des trucs pas ouf, quoi, mais c'est juste ses idéaux qui sont confrontés par rapport aux idéaux du personnage principal. Voilà.
C'est des méchants, c'est des antagonistes qui sont globalement méchants, mais très nuancés, contrastés. C'est-à-dire qu'ils font le mal, clairement, mais on va réussir à dire « Ah, mais ils ont un côté humain, mais ils arrivent à justifier leurs actes avec quelque chose qui a du sens, vraiment, qui est défendable. » Mais le mal n'est jamais défendable totalement, bien sûr. Mais on peut au moins comprendre. C'est pas comme Johan qui fait le mal parce qu'il aime le faire, simplement. Là, c'est des gens qui réalisent des actes parce que, qui prennent plutôt la mauvaise voie, on va dire, de manière générale, mais soit qu'ils ne s'en rendent pas compte, soit qu'ils ont eu un événement, souvent c'est un événement traumatique qui les pousse à être extrêmes en rapport avec les conditions extrêmes qu'ils ont reçues dans leur enfance, des choses de ce genre. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce que le lecteur peut prendre un parti entre est-ce que le méchant a raison ou est-ce que le méchant a tort.
C'est ça. Donc, c'est vraiment c'est cette série qui est très, qui est très contradictoire. Donc t'as le méchant, comment il est introduit, c'est la mise en scène est très c'est le méchant qui va tuer tout le monde, très très terrifiant. Et puis plus le temps passe, plus tu commences à apprécier le mec, alors que il est pas forcément gentil, quoi. Et voilà, quoi. C'est pas gentil d'être méchant, quoi.
C'est une belle phrase de conclusion, ça. Voilà. C'est pas gentil d'être méchant.
Voilà. La leçon, c'est important.
Donc je pense que sur cette belle phrase de conclusion, nous pouvons vous laisser à vos occupations, et à nous aussi, on va vaguer à nos occupations.
Exactement. Vous pouvez retrouver l'émission un jeudi sur deux, de 10h à 11h sur les graphites, ou alors vous pouvez nous retrouver en rediffusion sur le site de graphite aussi. Sur ce,
au revoir.
Au revoir. Salut. Et surtout, soyez gentils.
Ne soyez pas des antagonistes dans la vie, surtout pas.
Oui.
Soyez pas méchants, oubliez pas ce qu'a dit Mélouane, c'est pas gentil d'être méchant. Voilà.